Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Caroline Roux.
Relocaliser, on a l'impression que depuis la crise du Covid, c'est devenu un slogan. Mais ça fait des années que c'est défendu par des partis politiques, par des hommes et des femmes politiques. Pourquoi cette fois-ci, ce serait possible ?
Alors, il faut se demander effectivement pourquoi est-ce que nous n'y sommes pas arrivés depuis des années ? Pourquoi d'ailleurs les mêmes qui critiquent aujourd'hui les décisions du gouvernement n'y sont pas arrivés avant ? D'abord parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions fiscales. Ça ne suffit pas, mais l'environnement fiscal, c'est majeur. Quand un conseil d'administration décide d'ouvrir ou non une entreprise industrielle en France, il regarde ce que ça va lui coûter. Nous, nous avons allégé la fiscalité sur le capital et nous allons baisser à partir du 1er janvier 2021 de 10 milliards d'euros, c'est quand même une somme, les impôts de production sur les entreprises, principalement sur les entreprises industrielles.
Ce n'est pas une contrepartie, pas sur celles qui relocalisent. Mais on ne dit pas on baisse les impôts pour ceux qui vont produire.
C'est justement cette méthode qui a échoué, ça ne marche pas ça. Si vous commencez à dire avant que nous baissions les impôts, faut que vous commenciez par relocaliser, j'entends Arnaud Montebourg qui dit ça, mais c'est un échec complet, parce que du coup, on ne baisse pas les impôts de production, on ne relocalise pas les activités industrielles, chacun attend l'autre, et ça ne marche pas. Nous, nous faisons un choix clair, simple pour les investisseurs. On baisse de 10 milliards d'euros les impôts de production pour, je le rappelle, simplement rattraper nos compétiteurs que sont l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, parce que nous avons beaucoup de retard sur ce sujet-là. Le deuxième point qui est essentiel, c'est formation et qualification. Il faut revaloriser un certain nombre de métiers industriels qui ont été totalement dévalorisés au cours du passé. Donc vous avez plein de jeunes, au lieu de s'orienter vers des métiers de chaudronnier, de soudeur, des métiers industriels, les métiers d'ingénieur, se sont orientés vers d'autres emplois. Je dis au passage d'ailleurs que c'est très important, en particulier pour les femmes. On voit bien que sur les formations d'ingénieurs, il n'y a pas suffisamment de femmes. Il faut qu'on rende ces métiers-là attractifs pour les femmes. Et puis la troisième condition, c'est d'être capable de faire le choix résolu, déterminé, de l'innovation. Moi, j'entends le débat sur la 5G, mais ceux qui vous disent qu'ils ne veulent pas de la 5G, ils n'auront pas d'industrie non plus. Il faut être cohérent dans ses choix. Si vous voulez de l'industrie, des processus industriels qui sont complexes, la bonne gestion des flux, la bonne gestion de l'énergie, vous avez besoin de la 5G. Faire le pari de l'innovation, c'est faire le pari de la relocalisation industrielle.
C'est juste une affaire de volontarisme politique. C'est aussi simple que ça.
Non, c'est une affaire de cohérence. Il faut faire tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la fiscalité, la formation, l'innovation. Si vous prenez qu'un des trois points, vous n'y arriverez pas. Et puis, il faut aussi mettre de l'argent sur la table. Nous, on a mis beaucoup d'argent sur la table pour la baisse des impôts de production, mais aussi pour financer l'investissement dans l'innovation. Prenez l'hydrogène. Il n'y a pas un industriel aujourd'hui qui va investir dans des électrolyseurs ou dans des processus liés à l'hydrogène. Pourquoi ? Ça n'est pas rentable. Donc, je reviens une nouvelle fois au conseil d'administration. Les gens qui dirigent l'entreprise vont se réunir et vont dire, écoutez, l'hydrogène, c'est sûrement très prometteur à 10 ans, mais aujourd'hui, ça ne va rien rapporter à ma boîte, donc je ne le fais pas. Eh bien, l'État arrive et dit, ça va être rentable d'ici 10 ans ? Eh bien, nous, on met 7 milliards d'euros pour que tout de suite vous commenciez, pour que vous produisiez des électrolyseurs, pour que vous produisiez des batteries, pour que vous produisiez des réservoirs à hydrogène et qu'on ne prenne pas de retard. Parce que comme ça, demain, on aura notre propre hydrogène vert plutôt que de l'importer. Vous voyez le changement majeur que ça représente de dire, on est capable d'investir à perte, nous l'État, parce qu'on sait que pour les 25 prochaines années, ce sera rentable.
Sur une industrie d'avenir. Le sujet, c'est que dans le film, on a vu la société Verallia. Verallia, ex-Saint-Gobain, une excellence française. Là, l'État ne peut pas tout. L'État accompagne, encore une fois, la fermeture d'un four, la suppression d'emplois et la délocalisation d'une partie de la production.
Alors, s'agissant de Verallia, nous soutenons cette entreprise. Donc, nous allons continuer à soutenir un certain nombre d'entreprises qui sont en difficulté. Mais je vais être très clair avec vous, Caroline Roux.
Comment vous les faites, ces choix ?
Mais ce n'est pas nous, dans ce bureau, qui faisons les choix tout seuls avec mes conseillers. On demande aux économistes, aux spécialistes des marchés, on demande aux scientifiques, on demande aux ingénieurs, on regarde ce que font nos partenaires européens. On voit par exemple que l'Allemagne met 9 milliards d'euros sur l'hydrogène. On se dit, ça vaut peut-être le coup qu'on fasse la même chose. Et nous faisons des choix. C'est ce qui est le plus difficile en politique.
Être capable de dire, Verallia, c'est pas un marché d'avenir.
Verallia n'est pas le bon exemple, parce que je crois que le vert a de l'avenir. On soutient Verallia, on soutient Arc International dans le Nord. J'ai mis 97 millions d'euros pour soutenir cette entreprise qui représente des centaines d'emplois, qui, à mon sens, a un avenir devant elle. Mais il y a d'autres entreprises où, effectivement, on se dit, voilà, à terme, ce n'est pas forcément ce qui est le plus prometteur, donc l'État ne va pas investir l'argent public dessus.
Il faut accepter de le dire, ça.
Mais je le dis, je ne le dis pas avec plaisir, mais je le dis parce que c'est la vérité. Et qu'à force d'avoir entretenu les Français dans des illusions, on a délocalisé massivement et on n'est pas arrivé à relocaliser. Nous mettons l'argent public sur des industries d'avenir où il y a de la valeur ajoutée. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est des ouvriers qui soient qualifiés, c'est qu'il y ait la valeur ajoutée en France. Et nous acceptons de dire, oui, il y a certaines entreprises qui vont disparaître.
– Il faut accepter la casse sociale qui va avec.
– Je ne dis pas casse sociale, parce qu'on accompagne, parce qu'on soutient les salariés, parce qu'on les forme à de nouveaux métiers. Mais je vais vous dire, Caroline Roux, je pense qu'il ne faut jamais mentir aux gens. Et qu'on a trop menti aux Français.
– En leur disant quoi ?–
On peut tout garder, ne vous inquiétez pas, on va tout garder. On peut avoir de la relocalisation industrielle et une fiscalité qui est la plus lourde en Europe, il n'y a pas de problème. On peut relocaliser des activités industrielles sans investir dans l'innovation, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est des mensonges. Nous nous disons qu'effectivement certaines entreprises vont disparaître, mais que nous allons mettre beaucoup d'argent pour en créer de nouvelles et réussir cette relocalisation industrielle.
Et si on s'était trompé de mot ? Le bon mot, c'est localiser les productions d'avenir, mais relocaliser l'activité, par exemple, le textile, relocaliser la production de voitures thermiques qui sont actuellement produites au Maroc. Tout ça, c'est une illusion.
Je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que le mot n'est pas le bon. Parce que relocaliser, ça veut dire, dans le fond, il y a des choses qui sont parties, même à faible valeur ajoutée, des pare-chocs de voitures, des objets en plastique, on va les faire revenir en France. Là aussi, mensonge. On ne le fera pas. Et je veux le dire très clairement aux Français, ce n'est pas notre intérêt. En revanche, dire, la voiture électrique, dedans, il y a un moteur électrique. Ce moteur électrique, il marche avec des batteries. Cet ensemble-là représente un tiers de la valeur de la voiture. Donc laisser un tiers de la voiture d'avenir, produit en Chine ou en Corée du Sud, puisque 85% des batteries électriques aujourd'hui viennent de Chine ou de Corée du Sud. C'est une faute politique, ça oui. Nous avons rapatrié la production du moteur électrique de Renault, de Chine, à Cléon, et nous créons notre propre usine de batteries électriques qui va ouvrir à Douvrin en 2022, dans le Nord, grâce à PSA, grâce à Saft et grâce à Total. C'est ça la relocalisation.
On a encore besoin des Chinois.
C'est la localisation industrielle en France des productions à forte valeur ajoutée. On aura encore besoin des Chinois pendant quelques temps, mais demain, qu'est-ce qui va se passer ? En tout cas, je le souhaite, c'est le pari qu'on fait. D'une part, on va être plus indépendant sur les batteries ion-lithium liquides, et surtout sur les batteries de 2023-2024, les ion-lithium solides, qui emploieront moins de métaux rares. On sera indépendant. Parce qu'on aura fait, 5 ans plus tôt, au moment où je vous parle, le choix de produire nos propres batteries électriques.
Donc on peut rattraper le retard sur les batteries électriques vis-à-vis des Chinois.
Pas surtout, sur les batteries électriques, oui. Et on peut aussi prendre de l'avance. Prendre de l'avance sur le calcul quantique, sur l'intelligence artificielle, sur le stockage des données, sur le recyclage des déchets, sur toutes ces nouvelles filières industrielles que nous voulons effectivement relocaliser, ou plutôt, pour prendre votre terme qui est plus juste, localiser en France.
On a vu qu'il y avait certains produits qui n'avaient pas une forte valeur ajoutée, je pense aux masques, aux écouvillons, qui étaient parfois devenus des secteurs stratégiques. Là, il faut accepter de reprendre la main, même si industriellement ou économiquement, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée.
Oui, et c'est l'autre grand volet. Dans le fond, la relocalisation industrielle, c'est la localisation des marchés à forte valeur ajoutée, ceux de la batterie électrique, de l'intelligence artificielle, tous ceux que j'ai cités. Et c'est en deuxième lieu se dire sur quels produits nous refusons de dépendre de l'étranger. Et parmi ces produits, évidemment, je pense que les produits les plus importants, c'est les produits de santé. Vous avez cité les écouvillons, les masques, je pense aux principes actifs de médicaments. On ne peut pas accepter de dépendre de la production en Chine, en Asie ou dans d'autres pays asiatiques pour des produits qui sont nécessaires, par exemple, pour endormir les malades. C'est pas possible. Enfin, il n'y a pas un Français qui va accepter de se dire « je vais aller à l'hôpital, je vais avoir une anesthésie générale, mais il manque un produit, et il est réalisé en Chine, et on ne l'a pas en France ». Donc c'est ça que nous voulons faire. C'est être indépendant sur des produits que nous jugeons stratégiques.
Et sur certains de ces produits stratégiques, ce sont des produits polluants. Là aussi, il faut peut-être dire la vérité aux Françaises, c'est-à-dire que rapatrier une partie de la production pour gagner en souveraineté, c'est aussi accepter les contreparties d'une certaine manière. Et on parlait de l'industrie pharmaceutique, elle est polluante. C'est pour ça qu'on l'a délocalisée.
Elle est polluante, elle sera toujours moins polluante en France qu'elle ne l'est dans d'autres pays qui ne respectent pas autant l'environnement que nous. Mmh. Et dans le plan de relance, il y a justement tout un volet de décarbonation de l'industrie qui vise à dire, mais l'industrie peut être propre. Et nous, le pari que nous faisons ici en France et dans beaucoup de pays européens, c'est avoir une industrie qui est propre, qui émet moins de CO2. Là aussi, ça coûte cher. Là où l'argent de l'État est utile, c'est pour prendre à sa charge des coûts qui ne sont pas rentables du point de vue privé, mais qui sont rentables du point de vue de l'intérêt général. Prendre en charge la réduction des coûts de CO2, au moins temporairement, c'est rentable pour l'intérêt général. Prendre en charge l'investissement dans l'hydrogène, parce qu'il n'est pas rentable aujourd'hui pour un agent privé, pour une entreprise, c'est bon pour l'intérêt général. C'est le pari que nous faisons. Il y a une condition pour que ce pari marche. Elle est absolument essentielle, et nous essayons, avec le président de la République, d'en convaincre nos partenaires européens. C'est de mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne le plus rapidement possible. Parce que ça ne sert à rien, mais je dis bien à rien, de réduire nos émissions de CO2 en Europe et en France à grands frais, puisque je vous le dis, ça coûte cher, pour importer de Chine des produits qui, eux, émettent du CO2. Parce que tout ce qu'on va gagner à l'intérieur de nos frontières, on va le perdre à l'extérieur et le bilan global sera mauvais.
Ça fait des années qu'on le fait, pourtant.
C'est exactement ce qu'on fait depuis des années, mais depuis des années, on a fait beaucoup de bêtises. On a délocalisé, c'était une faute politique et économique. On a réduit nos émissions de CO2 à l'intérieur de nos frontières, mais ça a été plus que compensé par les émissions de CO2 de produits importés de l'étranger à l'extérieur de nos frontières. Donc quand on voit que le modèle ne marche pas, le rôle de la politique, c'est de dire, voilà, ce modèle, il est mort. Je vous le dis, il est mort. Ce modèle où on délocalise et on importe du CO2, il est mort. Nous proposons un modèle où on relocalise et on réduit les émissions de CO2 à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières.
Et puisque vous dites qu'il faut dire la vérité aux Français, vous proposez un modèle où ils vont payer plus cher.
Mais tout a un coût.
Il faut leur dire alors.
Ça a un coût, bien sûr. C'est plus cher. La question, c'est de savoir qui va payer. Je pense qu'en matière de CO2, la bonne politique, c'est de faire payer ceux qui émettent ce CO2. Et de le faire au niveau européen, avec un prix de la tonne de carbone qui soit plus élevé que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ça, c'est un enjeu absolument crucial. Mais ça va être long, ça va être difficile, parce que les États européens n'ont pas la même histoire. Évidemment, ceux qui ont une histoire liée au charbon depuis des décennies, disent « Attendez, c'est complètement injuste. Nous, on n'a pas le nucléaire, donc on est pénalisé. Donc il faut que nous trouvions des compromis avec l'ensemble des États européens. Mais il faut que ceux qui émettent le plus de CO2 payent le plus. »
Quand vous dites relocaliser, quand vous dites ce modèle, il est mort, il faut sans doute inventer celui d'après. On a fait beaucoup d'erreurs par le passé. Comment réagissent les chefs d'entreprise qui viennent ici même dans ce bureau quand vous leur dites, avec l'argent de l'État, puisque l'argent, vous en avez mis beaucoup depuis la crise du Covid, quand vous leur dites il faut relocaliser, tous vous dites oui, vous avez raison, monsieur le ministre.
Ils disent tous que effectivement nous avons raison. Après, il faut que les actes suivent. D'abord, je pense qu'ils ont tous conscience, comme les Français, que nous avons fait par le passé des choix qui étaient des erreurs. Quand nous avons décidé, par exemple, de subventionner la production d'électricité par les panneaux solaires, plutôt que la production de panneaux solaires, où est-ce qu'on a mis l'argent des Français ? Dans la poche des industriels chinois, qui ont construit des panneaux solaires, qui ensuite ont été importés en France. Et nous, avec l'argent du contribuable, on a financé cette production d'électricité, c'est-à-dire l'industrie chinoise. Pour l'hydrogène, on a refusé de faire la même chose. Et ça a été des longues négociations avec les industriels. Beaucoup d'industriels nous disaient « payer pour la consommation d'hydrogène ». Je dis « mais je ne vais pas payer pour la consommation d'hydrogène qui va être réalisée en dehors des frontières de la France. Nous allons payer pour la réalisation d'outils industriels qui vont faire l'hydrogène de demain. Et je préfère payer plus cher et avoir notre outil industriel plutôt que de payer la consommation ». Donc les industriels ont conscience de ça. Ensuite, ils ont leurs contraintes financières que nous connaissons. Je pense qu'ils peuvent faire encore un effort supplémentaire. Ils l'ont fait dans l'automobile, quand Renault rapatrie le moteur électrique à Cléon, quand PSA décide de mettre sa 3008 hybride électrique à Sochaux. Tout ça, ce sont de bonnes décisions. Je pense qu'ils peuvent faire plus.
Il y aura toujours la tentation de produire moins cher pour les industriels.
Toujours. Mais ce qui est moins cher pour les industriels peut être plus coûteux pour nous tous. Et je voudrais, c'est la réflexion que j'ai engagée avec beaucoup de chefs d'entreprise, qu'on ait une approche globale. C'est-à-dire pas uniquement une approche qui se limite au strict profit de l'entreprise. Qu'on regarde le coût social. Quand vous délocalisez, vous licenciez, ça a un coût social. Coût social qui est vertigineux. Qu'on regarde le coût environnemental. Quand vous délocalisez une production dans un pays qui est moins respectueux de l'environnement, c'est un coût environnemental qui est très élevé. Et donc le capitalisme que j'appelle de mes voeux, c'est un capitalisme qui est un peu moins étroit de pensée, qui est capable de voir plus large et de prendre en compte l'ensemble des impacts sociaux et environnementaux de son activité.
À quelles difficultés vous vous heurtez, malgré le volontarisme qui est le vôtre, et on l'entend, quand vous appelez les acteurs économiques à la relocalisation ou à la localisation? Quelles sont les difficultés auxquelles on se heurte?
La seule difficulté, c'est les actionnaires. Je suis très, très franc avec vous. Les actionnaires, ils ont mis de l'argent dans les entreprises, et ils veulent que ça rapporte. Et parfois, ils veulent que ça rapporte trop et trop vite. Là aussi, je pense que ce modèle est complètement dépassé. Parce qu'un président d'entreprise, un directeur général, n'a pas les pleins pouvoirs. Chaque décision qu'il prend pour ouvrir une usine, créer des emplois, il doit avoir le soutien de ses actionnaires. Et ces actionnaires peuvent dire bah, « Attendez, c'est bien gentil de vouloir faire ça en France, parce que vous êtes patriote, c'est formidable, mais ça coûte 20, 30, 40% plus cher que si vous le faisiez en Hongrie ou en République tchèque, et 60% plus cher que si vous le faisiez en Turquie. »
Et ça, ça ne va pas changer, Bruno Le Maire?
Si, ça va changer.
Ah bon?
Ça doit changer, Carine Roux. C'est le point absolument essentiel. Ça doit changer. Chacun doit comprendre qu'il y a un intérêt global qui se mesure aussi aux questions sociales, aux questions environnementales, dont le politique n'est pas le seul dépositaire.
Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va changer? Qu'ils vont entendre
quand
ce discours
pas,
que vous portez?
Roux, nous demandons à toutes les entreprises de mettre une raison d'être, c'est-à-dire d'expliquer quelle est la raison d'être de leur activité. C'est ça mon objectif final. Je ne vais pas l'imposer par la loi en disant vous êtes obligé de faire ceci, vous êtes obligé de faire cela, parce que ça, ça conduira aux délocalisations. Donc tous ceux qui vous disent qu'il faut l'imposer par la loi, ils font les matamores, mais ils tuent l'industrie française en créant des obligations qui la pénalisent. Je crois davantage à la voie que nous avons mise en place, c'est-à-dire faire prendre conscience à tous les chefs d'entreprise que la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale, l'égalité entre les femmes et les hommes sur laquelle on a pris tellement de retard en France, c'est pas que ma responsabilité d'homme politique. C'est leur responsabilité aussi de chef d'entreprise. Et on n'y arrivera, Caroline Roux, que comme ça, si chacun se sent responsable.
Vous vous rendez compte, ça fait longtemps que tout cela repose sur la bonne volonté des chefs d'entreprise, des actionnaires dont vous parlez.
C'est bien pour ça qu'il faut être capable aussi de brandir la menace de l'obligation. Ah. En disant, si jamais les choses n'avancent pas, sur un certain nombre de sujets qui nous paraissent absolument vitaux, il va falloir que nous passions par la loi. Moi, je pense que la loi doit rester un ultime recours sur les activités économiques. Et que la bonne politique, c'est celle de l'incitation, celle de l'attractivité, celle de la responsabilité collective. Mais il faut être capable de dire, effectivement, à un moment ou un autre, si jamais ça ne marche pas, on passera par la loi. Je vous donne un exemple. On a réussi à réduire les frais d'incident bancaire pour les ménages les plus modestes. On l'a fait parce que les banques françaises ont joué le jeu et on est passé d'un montant moyen de plus de 500 euros à un montant inférieur à 300 euros, mais aussi parce que je leur ai dit, écoutez, si jamais ça ne marche pas, eh ben on passera par la loi.
Jusqu'où peut aller le rôle de l'État? Et jusqu'où doit aller le rôle de l'État? Des nationalisations, par exemple, pour garder en France certains sites de production?
Mais les nationalisations, c'est vraiment l'ultime recours sur des activités stratégiques, mais ce n'est pas le rôle de l'État de gérer une entreprise, de diriger une entreprise, sauf pour quelques activités totalement stratégiques. Je pense à l'énergie, je pense au chemin de fer avec la SNCF, je pense au nucléaire, bien entendu, ça c'est des activités qui sont stratégiques. Mais l'État n'est pas équipé pour diriger, gérer une entreprise, un bilan, des salariés, c'est pas son rôle.
Donc il met des fonds publics et il laisse faire?
Non, l'État d'abord il protège. Et dans cette crise, l'État a été à la hauteur de la situation. Il a mis 460 milliards d'euros. Il a sauvé des dizaines de milliers de salariés avec le chômage partiel. Il a sauvé des dizaines de milliers d'entreprises avec le prêt garanti par l'État. Donc je le dis parce que je le crois profondément et je le dis pour tous les fonctionnaires qui n'ont pas compté leur temps pendant cette crise. L'État a sauvé l'économie française. Pendant cette crise du Covid, l'État a sauvé des emplois et a sauvé des entreprises. Sans lui, c'était l'effondrement de notre économie. Maintenant, on rentre dans un deuxième temps. Et voyez bien le choix que nous avons fait. Nous avons fait un choix qui est de faire évoluer notre aide, de la protection, vers le développement de l'économie française tel que nous l'imaginons en 2030. C'est le sens de notre plan de relance. Investir sur la décarbonation, l'hydrogène, l'innovation, les compétences des salariés, plutôt que de distribuer des chèques à tout le monde. Parce que ça, c'est ce qu'on fait d'ordinaire en France. Ça marche pendant 1 ou 2 ans, mais on sort plus faible de la crise. Donc oui, l'État a un rôle fondamental, mais il faut le faire évoluer. C'est ce que nous faisons avec le président de la République et le Premier ministre actuellement, de la protection totale au moment où la crise explose, à la définition du modèle économique de demain.
Est-ce que vous croyez que le modèle d'après, ce sera celui de la démondialisation? Vous disiez le modèle du capitalisme tel qu'on l'imaginait et tel qu'on l'a vécu pendant ces 20 dernières années, il est mort. Le modèle d'après, c'est la démondialisation?
Non. Non, c'est un pur mensonge. Faisons pas croire une nouvelle fois cela aux Français, c'est des fadaises. Enfin, il faut ne pas voyager, ne pas rencontrer les dirigeants étrangers ou les autres ministres des Finances, les chefs d'entreprise, pour penser qu'il y aura une démondialisation. Et si on est tout seul à le penser en France, ça va nous coûter très cher. Oui, nous devons nous battre pour un nouveau modèle de capitalisme respectueux de l'environnement, luttant contre les inégalités sociales. C'est ce que l'Europe doit porter comme modèle. Et je vais vous dire, j'y mettrai toute mon énergie, comme je le mets depuis le début. Mais de la démondialisation, il n'y en aura pas. Il y aura un recentrage.
C'est quoi ?
Le recentrage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espèce de mouvement brownien perpétuel de toutes les activités économiques, financières à travers la planète, les continents vont se replier sur eux-mêmes. Et je dis bien les continents, pas les pays. Les États-Unis vont se replier de plus en plus sur eux-mêmes en se protégeant par des sanctions. Et je vais vous dire que ce soit M. Biden ou M. Trump qui gagnent les élections américaines, je pense que ça ne changera pas grand-chose. La Chine va se replier sur son marché intérieur. Et le président Xi l'a dit avec beaucoup de clarté. Nous nous sommes développés pendant 3 décennies en nous ouvrant vers l'extérieur et en allant chercher les technologies extérieures. Maintenant, le marché chinois nous suffit. Donc ils vont se replier sur eux-mêmes, se reconcentrer sur eux-mêmes. En Europe, il faut qu'on fasse la même chose. Qu'on défende nos intérêts économiques. Quand je vous dis taxe carbone aux frontières, ça veut dire ben, nous on réduit nos émissions de carbone parce qu'on y croit. Donc si vous voulez venir chez nous, si vous voulez entrer dans le marché unique européen, c'est-à-dire des 500 millions de consommateurs les plus riches de la planète, vous payez. Vous émettez du CO2, vous rentrez, vous payez. C'est ce que j'appelle le recentrage de la mondialisation.
Le recentrage, en fait, on se trompe de mots à tous les étages. On parle de relocalisation, il s'agit de localisation d'industrie d'avenir. Et on imagine relocalisation comme le retour du Made in France. En fait, vous nous dites, non, le terrain de jeu, c'est l'Europe.
Le terrain de jeu, c'est évidemment l'Europe, mais vous dites quelque chose qui me paraît essentiel. Les mots sont trompeurs, et je pense qu'il est temps qu'on nomme bien les choses. Relocalisation, ce n'est pas le bon mot, c'est localisation de nouvelles activités industrielles. Démondialisation, non, la mondialisation continuera, les échanges continueront, et c'est notre intérêt. Il faut bien qu'on exporte nos vins, nos voitures, nos fromages, nos Airbus, et s'il n'y a plus de mondialisation, il n'y aura plus d'exportation, et donc de la pauvreté en France. Le bon mot, c'est recentrage. Les continents vont se recentrer sur leurs intérêts économiques. Et je pense que la France, dans ce nouveau modèle-là, peut tirer son épingle du jeu. Qu'elle a même, de tous les pays européens, peut-être celui qui a le plus d'atouts. Parce qu'elle sait innover, qu'elle a un esprit créatif, qu'elle a une base économique qui est solide. Donc on va y arriver.
Si on rate le coche, on le verra dans les prochaines élections.
Si on rate le coche, d'abord, si on avait raté le coche du soutien économique en mars, vous savez, quand il faut prendre la décision ici, est-ce qu'on déverse des milliards ou non ?
Tout le monde l'a fait.
Eh bien,
tout le monde l'a fait, Bruno Le Maire.
Mais la France a été celui qui l'a fait avec le plus de rapidité et avec le plus d'ampleur. Et je pense que ça doit être une fierté pour nous tous. Et si nous ne l'avions pas fait, vous auriez eu ce qui s'est passé en 1929, une crise politique majeure. Nous aurions eu une crise politique majeure. Nous l'avons évité grâce aux décisions que nous avons prises avec Emmanuel Macron et le Premier ministre. Ensuite, l'enjeu, il est, je pense, très clair aussi pour nous tous. C'est le déclassement de la France au XXIe siècle. Si on ne prend pas les bonnes décisions, par exemple, on n'investit pas sur l'hydrogène et on est obligé de l'importer. on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle. On ne déploie pas la 5G au moment où tous les pays développés de la planète le développent. Eh bien, très rapidement, parce que les choses vont très vite, en 5 ans, 10 ans au maximum, la France devient un pays de deuxième zone. La France sera déclassée, et déclassée d'une manière que je pense irrémédiable. Moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Je pense que la France a tout pour rester une des grandes puissances économiques et politiques de la planète. Mais ça se joue maintenant. Les investissements qu'on fait maintenant, on ne va pas investir tous les jours 100 milliards d'euros, doivent être des investissements qui nous permettent de rester une grande puissance au XXIe siècle.
C'est plus un gros mot, souveraineté ?
Ça n'a jamais été dans ma bouche. Il faut simplement qu'on s'entende sur ce que c'est que la souveraineté. Il ne suffit pas de répéter matin, midi et soir, souveraineté, souveraineté, souveraineté. La première des souverainetés est technologique. Il faudrait juste qu'on comprenne ça. Ce n'est pas uniquement fermer ses frontières, contrôler. Non, la souveraineté, elle est technologique. Parce que si vous contrôlez vos frontières avec des technologies qui sont américaines ou qui sont chinoises, en fait, vous ne contrôlez rien du tout. Vous donnez tout aux puissances étrangères. La vraie souveraineté est technologique. Si vous avez des voitures autonomes...
Cette bataille-là, pardon, guidées... restons sur la souveraineté technologique. Là, on a combien d'années de retard ? On parlait tout à l'heure des batteries. On peut rattraper le retard ?
On peut rattraper ce retard. Mais je voudrais juste qu'on comprenne bien, là encore, à quel point l'enjeu est d'abord dans ces technologies. Pas de souveraineté politique sans souveraineté technologique. Si vous avez des voitures qui sont guidées par des technologies qui sont américaines ou chinoises, vous n'êtes pas souverain. Si vos frontières sont contrôlées par des technologies de reconnaissance faciale qui sont chinoises, vous n'êtes pas souverain.
C'est trop tard, si Bruno
votre,
Le Maire.
Si votre énergie tard, est produite par de l'hydrogène qui est réalisé à l'extérieur de votre frontière, vous n'êtes pas souverain. Et ça n'est pas trop tard.
Ça n'est pas trop tard sur le digital, sur le numérique ?
Ça n'est pas trop tard sur le digital, ça n'est pas trop tard sur l'intelligence artificielle, ça n'est pas trop tard sur le calcul quantique. Il y a des choses qu'il faut qu'on abandonne. On n'aura pas, par exemple, de géants du digital au sens de Apple, Google, Amazon ou Facebook dans quelques mois ou quelques années en France ou en Europe. Ce tournant-là, on l'a manqué. Mais il y a d'autres tournants sur lesquels on peut réussir. Nous pouvons être le premier pays et le premier continent à avoir un ordinateur de calcul quantique qui fonctionne. C'est possible. On peut avoir le premier avion à hydrogène de la planète. 2035, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est possible. On peut être des leaders dans le recyclage des déchets, qui est une activité qui va être absolument stratégique à l'avenir. C'est possible. En matière spatiale, on a loupé le lanceur renouvelable. On était bien stupide. Mais on peut se rattraper sur des constellations, on peut se rattraper sur des lanceurs de nouvelle génération fonctionnant en hydrogène et cette fois récupérable, c'est possible. Dans tout ça, il y a juste quelques conditions. Un, y croire. Moi, j'y crois.
Ça se voit.
J'y crois. Deux, investir l'argent au bon endroit. Et trois, se rassembler entre Européens. Les batteries électriques, on ne pouvait pas les faire sans l'Allemagne. Ça coûte trop cher. Le lanceur renouvelable à hydrogène, on ne pourra pas le faire tout seul. Il faut qu'on trouve un accord avec l'Allemagne et avec l'Italie. Ça ne va pas être simple. On ne va pas avoir trois lanceurs différents en Europe. Il faut qu'on rassemble nos forces pour qu'il n'y ait pas un lanceur français, un lanceur allemand et un lanceur italien, mais un seul lanceur, technologiquement le plus avancé, qui soit européen. C'est la deuxième condition, rassembler nos forces européenne. Et la troisième condition, c'est être capable de faire comme les États-Unis et comme la Chine, mais je pense qu'on est dans la bonne direction, savoir défendre nos intérêts économiques et se protéger. Une fois encore, vous voulez rentrer sur notre marché, très bien, vous payez votre taxe carbone à l'entrée. Vous voulez prendre cette technologie et l'acheter, c'est non. On ne vous laisse pas l'acheter, on contrôle les investissements et on vous refuse. La souveraineté, ça ne doit pas être un mot, c'est des décisions.
C'est une opportunité, au final.
La crise ?
La crise du Covid ?
Oui, c'est une opportunité. Du point de vue économique, c'est probablement la plus belle opportunité pour la France et pour l'Europe pour se réveiller, pour sortir de ses illusions. Et se dire, il va falloir qu'on se secoue sacrément les puces, mais on peut y arriver. Mais c'est une opportunité, ça j'en suis convaincu, parce que tout d'un coup, les mentalités changent, y compris, je vais vous dire, la mienne. Jamais j'aurais imaginé, quand je suis arrivé dans ce bureau il y a près de 4 ans, alors que j'essayais désespérément d'économiser 10 millions d'euros ici ou 20 millions d'euros là, qu'un jour, j'allais proposer au président de la République de débloquer en 24 heures 300 milliards d'euros pour faire un prêt garanti par l'État pour toutes les entreprises. Jamais je l'aurais imaginé. Mais c'est ça l'intérêt de la crise. C'est de vous bousculer et de vous obliger à voir ce qu'il y a de plus difficile en politique, le réel. Le réel tel qu'il est. brute, avec toute sa violence, pour lui faire face et trouver des solutions.
Le libéralisme est devenu hors sujet.
Le libéralisme des années 70-80, il est mort. C'est fini, vous pouvez l'enterrer, vous pouvez prendre une petite prière autour si vous le souhaitez, mais il est mort, c'est fini. C'est plus ça le sujet.
La maîtrise des dépenses publiques, ça aussi?
Non.
Ça appartient au passé?
Non. Alors ça, pour le coup, non.
Ah.
Je vais être très clair avec vous. Le marché, dans le fond, décide mieux que les politiques. Non. C'est faux. Ce libéralisme-là, il est mort, enterré, paix à son âme. En revanche, sur la maîtrise des finances publiques, elle est indispensable. Il faut que chacun comprenne.
Ça ne se voit après, pas beaucoup en ce moment.
Non, parce que tout est question de séquence, de temps. Et je fais attention à respecter les temps de la crise. Il y a eu un premier temps très violent, il fallait réagir, on l'a fait. On a un deuxième temps où il faut préparer l'avenir, c'est le plan de relance. Mais viendra le moment où il faudra rétablir les finances publiques. Parce que si dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a une nouvelle pandémie, qu'à nouveau il faut que l'État réagisse, on sera bien content d'avoir retrouvé des marges de manœuvre financières et de ne pas être avec un niveau d'endettement qui nous empêcherait de réagir à nouveau. Donc la responsabilité sera, le moment venu, je dis bien le moment venu, de rétablir les finances publiques.
Et là, on retrouvera le Bruno Le Maire d'avant à son bureau qui cherchera 10 millions d'euros.
Bon, je ne sais pas si je serai toujours là, ce sera peut-être un de mes successeurs, mais il est évident que passer le temps de la riposte à la crise, de la relance, une fois que nous aurons retrouvé le même niveau de développement économique, j'ai fixé 2022, vous voyez, le calendrier est très clair. À partir de ce moment-là, quand la croissance sera revenue, il faudra faire attention aux dépenses publiques et engager des réformes de structure sans lesquelles il n'y aura pas de rétablissement des finances publiques. Je pense à la réforme des retraites, par exemple. Et il faudra avoir le courage de le dire aux Français. On rentre dans un temps nouveau où il faut recharger les accumulateurs.
Merci beaucoup.
Merci, Corinne Roux.